Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Hubert Mat.
Salut Julien.
Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et même si là, ça y est, on commence à parler de plan de déconfinement qui va entrer en vigueur, on se rend compte que le retour à la normale, ça sera dans très longtemps. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien t'entendre après sur qu'est-ce que ça veut dire un retour à la normale, est-ce qu'on le souhaite vraiment? Bref, on en discutera dans quelques minutes. Mais c'était quand même pour moi particulièrement important de faire cette interview, même si en général, je me rends sur place. Directement sur le lieu de travail des gens que je mets en valeur dans l'émission 2030 Glorieuse et à la fois on ne peut pas attendre, il faut qu'on continue, il faut qu'on avance et il y a ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Hubert, toi tu en fais partie, tu es le fondateur de La Vie est Belt, une marque d'accessoires de mode en matière recyclée façonnée en France par des personnes fragilisées par un handicap. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît?
Ouais, avec plaisir et merci beaucoup Julien de m'inviter dans ce podcast. La Vie est Belt, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée, tu l'as bien expliqué. J'ai lancé il y a 3 ans à la fin de mes études avec un produit phare, la ceinture qui est faite avec un pneu de vélo usé qui est normalement incinéré, et l'envie c'était de partir d'un déchet, d'en faire un produit utile pour le plus grand nombre, puisqu'on est, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 20 ans ou 80 ans, on aime porter et on a besoin de porter une ceinture pour porter son pantalon, et fait ici localement dans un atelier solidaire à Tourcoing.
Ouais, donc du coup, tu as eu l'envie, après tes études d'ingénieur, de lancer une initiative qui soit une initiative locale, artisanale, avec quand même ce qui pourrait être vu par d'autres entrepreneurs comme beaucoup de contraintes, hein, parce qu'en plus, tu as eu une envie d'impact écologique et d'impact social. Comment ça se fait que tu as envie de cocher toutes ces cases en même temps?
En fait, c'est un défi que je me suis lancé à la fin de mes études. J'ai fait une école d'ingénieur ici à Lille qui s'appelle l'ICAM. Ingénieur généraliste et n'étant pas forcément très scolaire, mais j'avais quand même l'envie d'aller au bout d'un programme, d'un cursus et de faire des études quoi. Donc j'ai fait cette école en alternance. Ça m'a permis de travailler pendant mes études, pendant 3 années, chez Decathlon. Et donc j'étais ingénieur dans la création des produits textiles pour le ski. Je vivais en Haute-Savoie à ce moment-là. Et à la fin de cette expérience de 3 ans, dans la confection et la grande distribution de produits textiles, je me suis dit, et si on pouvait continuer à faire des produits chouettes, parce que moi j'aime faire des produits, c'est vraiment un truc qui m'a toujours plu depuis que je suis petit, la création, enfin passer d'idées, de créativité à de la matière, à quelque chose de très concret, ça c'est un truc qui me plaît et cette première expérience professionnelle m'a permis de m'en rendre compte. En revanche, après 3 ans là-bas, je me suis dit qu'il y avait aussi des impacts qui me plaisaient moins. Il me manquait certains alignements au fond de moi avec mon boulot et l'impact que ça a sur la société et sur le monde. Je pense que si on veut changer le monde et si on aspire à un monde meilleur, faut qu'on arrête de produire autant de produits à l'autre bout du monde avec des matières franchement pas toujours super clean, avec des matières premières dont on en a de moins en moins. Et en clair, je me suis dit, à la fin de mon contrat et à la fin de mes études, je me suis dit, et si je me lançais ce défi de faire un produit, commençons par un, qui soit positif pour la société. Un produit où, en le faisant, on améliore un petit peu, on améliore un peu notre monde d'un point de vue écologique. Si on part d'un déchet qui est normalement incinéré et qu'on le revalorise, bah, ce sera toujours mieux que ça. Et en participant à un vrai besoin social, à de l'emploi local dans des coins de France où il y a beaucoup de gens au chômage, où il y a beaucoup aussi de gens potentiellement fragilisés par la vie qui sont en difficulté sociale.
En t'entendant parler, Hubert, je pense à l'interview que j'avais menée avec Corentin de Châtel-Perron qui, lui, se dit ingénieur aventurier. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il fait, Corentin.
Ouais, carrément, très inspirant. Ouais, et il a fait mon école aussi.
Ok, et donc le Low-Tech Lab, lui, il est vraiment dans cette envie d'innovation frugale, d'innovation sobre, et il remet un peu en cause la question de l'innovation, du progrès qui passe par la high-tech. J'ai l'impression que tu te retrouves un peu dans cette tendance, toi, hein, dans cette veine, peut-être plus qu'une tendance d'ailleurs.
Ouais, c'est clair, et je suis persuadé, et c'est pour ça que je trouve Corentin et son projet très inspirant. Je crois beaucoup au moins, mais mieux. Je crois beaucoup au bon sens. Revenons à du bon sens. Pourquoi faire des millions de t-shirts à 2 €? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et est-ce qu'on n'a pas déjà assez de matière dans nos régions, par exemple? Donc, c'est clair, ouais, ça me parle à fond, les low-tech.
Ouais, les low-tech. Parce que, attends, du coup, la vie est belt. Bon, bah ouais, tout est dans le titre. Hein, la belt, c'est la ceinture en anglais. Vous avez donc eu ce produit phare hein, qu'on a beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux. L'histoire est belle. Tu la mets bien en avant. Tu l'incarnes parfaitement. Et puis ensuite, la marque a un petit peu évolué, je crois, hein, puisque vous avez fait de nos papillons. Vous avez fait même des caleçons, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en effet. Merci pour la marque. Les nouveaux produits, la dernière gamme arrivée en novembre dernier, ce sont des caleçons qui sont faits avec des draps et des housses de couette recyclées. Donc on s'attaque à une matière qui m'intéressait vraiment, ce qui est le textile. Et donc on revalorise du coton. On bosse sur la collecte avec une entreprise solidaire qui s'appelle Le Relais,
ouais.
qui est assez connue, qui emploie plus de 4000 personnes, dont 60% d'effectif est en contrat d'insertion, et qui collecte du textile à travers la France et essaie de trouver les meilleures issues possibles pour les revaloriser. Et ce qui est génial avec ce projet et avec la Vieille Belt, on va bientôt fêter nos 3 ans. Et plus on grandit, plus on est contacté par des organismes qui nous font part de leur gisement de matière,
ouais.
Qui nous disent c'est génial ce que vous faites avec les pneus, mais nous on a tel type de matière qu'on doit jeter, incinérer, enfouir. Et est-ce que vous auriez pas des idées, l'envie de faire quelque chose avec ça? Et c'est de ça que naissent les nouvelles gammes de produits. Et c'est ça qui est génial. C'est là où je me retrouve encore une fois dans ce projet. C'est que de base ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est de créer des produits. C'est la partie créativité. Ça, c'est un truc qui me botte bien au quotidien dans mon métier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, les pompiers des Hauts-de-France, vu qu'on est dans le Nord, qui nous disent chaque année, on doit enfouir plusieurs centaines de mètres de lance-incendie. Est-ce que vous en ferez pas quelque chose? Et de ça est née la ceinture en lance-incendie, les porte-clés. Là, on bosse sur d'autres produits aussi avec cette matière. Et c'est une sacrée histoire, une belle histoire qu'on continue de faire grandir avec d'autres acteurs et d'autres partenaires.
Au total, vous avez quand même, on parle d'une petite structure, même si vous êtes dans une très belle dynamique, et pourtant, vous arrivez quand même à revaloriser des quantités loin d'être négligeables de caoutchouc et de textile. Hein. T'as des chiffres un peu pour 2019, ou peut-être même depuis le début de l'activité?
Ouais, là, on a passé le cap des 4 tonnes de caoutchouc revalorisés.
Ouais, c'est balèze. Hein.
C'est à la fois génial et c'est à la fois une goutte d'eau sur le nombre de caoutchouc jetés en France chaque année. C'est 320 000 tonnes de caoutchouc jetés par an en France. En revanche, ça grandit bien d'année en année et on fait plus du double de revalorisation par an chaque année. Sur le coton, on a démarré il y a 5 mois et là, on va passer les 700 kilos de coton revalorisé. Et ce qui est génial dans l'upcycling, dans la revalorisation de matière, upcycling en français c'est surcyclage, c'est le fait d'utiliser une matière pour pas faire une nouvelle matière, mais lui donner une autre utilité. Le recyclage c'est prendre une matière, refaire une nouvelle matière et ensuite redonner une nouvelle utilité.
Ouais, avec les déperditions d'énergie que ça implique, alors que vous évitez cette étape.
Ouais, exactement. Et ce qui est génial dans l'upcycling, c'est qu'en plus d'éviter un déchet qu'il faut traiter derrière, eh bien, on évite de devoir utiliser une matière neuve pour faire un nouveau caleçon, une nouvelle ceinture.
Et est-ce que tu dirais pas que finalement, l'impact de la vieille belt, il est peut-être même plus grand sans doute dans le changement des perceptions plutôt que dans la simple, si je peux me permettre, revalorisation des déchets, puisqu'en fait, et d'une avec votre communication, votre présence sur les réseaux, toute la belle histoire que vous êtes en train de raconter, vous montrez qu'en fait les déchets peuvent être réutilisés pour faire de beaux produits, et puis en plus vous montrez que c'est viable économiquement, et j'imagine que ça doit titiller des plus grands groupes aussi, non ?
En effet, ouais, et je te rejoins carrément là-dessus. Ok, 5 tonnes de caoutchouc, c'est génial, mais c'est encore loin du compte de tout ce qui se jette.
Ouais.
Y a l'aspect solidaire aussi que j'ai pas mentionné là en chiffres, mais ça permet quand même l'emploi de 3 personnes en situation de handicap à Tourcoing, dans l'entreprise adaptée qui est notre partenaire, qui s'appelle Altereos. Et sur la confection textile, c'est l'équivalent de 2 salariés à Roubaix.
Ouais.
C'est génial encore une fois, mais ça reste tout petit pour l'instant. C'est clair que notre impact est peut-être le plus fort, alors qu'il est plus dur à mesurer, mais c'est la sensibilisation auprès du grand public et auprès des d'institutions, de marques différentes. Et plus on avance et plus on est regardé par des gros, quand je dis des gros, c'est des entreprises de plusieurs milliers de personnes qui confectionnent des pneus, par exemple, comme Michelin, comme Hutchinson, comme Continental,
ouais,
avec qui on échange de plus en plus sur... déjà, on leur montre, là, on bosse avec Hutchinson sur la revalorisation de leur rebut de production. C'est les derniers à avoir une usine de pneus de vélo en France, Hutchinson. Et on leur montre qu'en fait, tout ce qu'ils jettent, c'est plus de 100 tonnes par an de rebut de prod. Potentiellement, on peut en faire quelque chose. Et donc maintenant, ils nous les trient et on les récupère et on les revalorise ensemble, solidairement, dans l'atelier. Et ça change les mentalités de ces gens. Et derrière, il y a un Michelin qui nous appelle et qui nous dit « Nous aussi, on serait chaud parce que jusqu'à présent, on n'en fait pas grand-chose non plus de nos pneus. On est en échange aussi avec le Tour de France et on revalorise des pneus des équipes coureurs, donc des cyclistes pros du Tour de France, du Paris-Roubaix. C'est souvent pas forcément les plus engagés écologiquement, mais derrière, quand on échange avec eux, ça les fait bouger sur ces sujets-là, et ça, c'est un vrai plus. Et enfin, après, c'est nos clients et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est génial. Et on reçoit des messages assez incroyables et certains qui nous disent voilà, vous m'avez donné envie de quitter mon boulot et d'être plus aligné avec mes valeurs au quotidien dans ma vie pro. Et ce genre de message, le fait d'avoir permis un déclic dans la vie des gens pour vraiment passer le cap et agir pour un monde meilleur, pas que seulement dans la vie perso mais dans la vie pro, ces messages là ils sont j'ai du mal à trouver des bons adjectifs, mais ils sont très puissants. Ils me donnent envie d'y croire et de continuer l'aventure plus que tout.
Tu nous as pas mal parlé là, des entreprises qui du coup peuvent valoriser leurs produits finis. Là, tu parlais des rebuts de Hutchinson. Et du côté des marques qui vendent les vêtements, il n'y a pas un Decat là qui est venu te voir en disant mais en fait, nous pour l'instant on en est qu'au recyclage, mais en fait l'upcycling des produits comme ceux que tu fais, ça nous montre qu'en fait ça peut être aussi une option et on a envie de développer peut-être une partie de nos marques dans cette tendance-là.
Avec Decat, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais au final, on reste en super terme avec tous les collègues que j'ai pu avoir là-bas et surtout sur la collecte des pneus, parce que eux aussi sont friands pour trouver des issues à leurs déchets. Et ce qui est génial, c'est qu'on est en train d'étendre. J'espère bientôt qu'on sera en région parisienne. Pour l'instant, c'est les Hauts-de-France, c'est plus de 32 magasins où on met des totems de récupération volontaire, donc un piquet avec une communication cool qui parle de notre projet, dans les entrées des magasins. Et on propose au grand public et à tous ceux qui veulent de venir déposer leurs pneus de vélo. Et nous, derrière, on a un circuit de collecte qui est greffé sur des circuits existants de Decathlon pour collecter la matière.
Ouais, mais Hubert, tu vois ce que je veux dire. Là, pour l'instant, c'est éviter du gaspillage, très bien. Mais on peut aller plus loin dans la production de vêtements qui sont ensuite durables, qui vont en plus, qui ont la particularité d'être sans doute beaucoup plus résistants que les vêtements classiques qui sont les alternatives aux produits que vous proposez. Ça donne pas envie à des marques de faire le pari de l'upcycling, parce que pour l'instant, on est beaucoup dans le recyclage. Decathlon s'y met, là, ça y est. Ils ont des vestes recyclées, notamment, mais pas encore upcyclées. Upcyclées, c'est quand même le level 2, non?
C'est clair. Et je saurais pas te dire pourquoi et quand est-ce qu'ils vont y aller à passer à de l'upcycling. Ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de salariés au sein de ces groupes-là qui s'y intéressent. J'interviens de plus en plus dans ce type d'entreprise pour parler du projet et expliquer, nous, comment on s'y prend. Après, c'est un peu les défis de des toutes petites structures très agiles comme nous. Alors certes, on a peu de moyens, mais par contre, on peut aller vite et on peut bouger. VS, un énorme paquebot qui a ses prévisions, qui a ses actionnaires, qui a tout un système à faire tourner et qui est pas si facile à faire bouger.
Et ben justement, en parlant de gros paquebots, on a une économie en ce moment en France, et pas que en France, qui est à l'arrêt. Et ça y est, il faut absolument des plans d'urgence, il va falloir relancer la machine. Est-ce que toi, dans ton expérience, il n'y a pas des choses qui te font dire que, en fait, relancer la machine comme avant, ce n'est pas forcément une bonne idée? Et est-ce que tu n'aurais pas des clés à partager à ceux qui nous écoutent pas relancer la machine comme avant, justement, pour faire un pas de côté et mettre au cœur de l'activité économique, voilà, le local, l'écologique, le solidaire, le social.
Ah, ben, j'espère à fond. Ce qui me plaît beaucoup là dans ce qu'on est en train de vivre, si on regarde le verre à moitié plein, et moi j'aime bien regarder le verre à moitié plein perso, c'est-à-dire rester optimiste. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est forcé à prendre le temps. Et je trouve que dans notre génération, où tout va de plus en plus vite, et le fait de plus prendre de temps, on se rend plus compte des choses, et on se rend plus compte forcément des aberrations de notre système actuel. Des aberrations écologiques, des aberrations sociales. Et je trouve que le fait là d'appuyer sur pause, ou au moins ralentir, et d'être chez soi peut nous permettre déjà à revivre l'instant présent, et la vie n'est uniquement que dans l'instant présent finalement, et regarder et s'intéresser aux choses, et regarder un peu, prendre un peu de hauteur sur notre monde actuel, et se dire, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie-là ou pas? Et j'espère en tout cas qu'un maximum de gens puissent prendre ce temps-là et prendre cette hauteur pour nous repartir d'un bon pied et pas repartir exactement comme on était en train de faire jusqu'à présent.
D'autant que toi, tu montres ces deux exemples, à la fois l'exemple de l'entrepreneur qui s'est lancé avec une idée un peu folle et qui, j'ai l'impression, épanoui et qui surfe sur une superbe vague, et pour ceux que ça pourrait intéresser, qui se disent, j'ai une super idée, il faudrait que je me lance. Et tu montres aussi que une initiative d'artisanat local, inspirée, écologique, avec des valeurs fortes, ça marche.
Ouais. C'était un de mes défis, en fait, de me prouver et de prouver qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire preuve de bon sens. Mais je t'avoue que c'était pas facile hein, au début.
Ah non, mais ça, c'est sûr.
Quand t'as 23 ans et il y a Decathlon qui te propose un super CDI en Haute-Savoie, au pied des montagnes, chez Quechua, dans la conception des sacs de randonnée et ce genre de choses, avec un salaire assez confortable et tout. Et de l'autre côté, bon, feuille blanche et un projet beaucoup plus flou et bancal, entre guillemets. Ça, c'était... Je trouve le plus dur, en fait, c'est de passer le pas, de se lancer pleinement. Et une fois qu'on s'est lancé dans l'aventure, que ce soit une aventure entrepreneuriale ou que ce soit, en fait, un projet ou rejoindre une entreprise qui vous inspire vraiment, pas que pour l'argent ou pas que pour briller en société, mais justement vraiment pour ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Une fois qu'on s'est lancé là-dedans, il se passe tellement de choses incroyables, tellement d'apprentissages qu'on regrette vraiment, vraiment pas. Alors, je dérive sûrement de ta question, mais...
Non, mais c'est une réponse tout à fait légitime et qui donne envie, effectivement, de se lancer, de s'accrocher. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et je ne veux pas renier... les difficultés que tu as dû vivre hein, depuis 2017. Tu as créé la marque La vie est belle en 2017, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est un peu les montagnes russes, hein, cette histoire, mais à l'arrivée, à refaire, tu referais le même choix, j'ai l'impression.
Mais carrément, carrément. Et j'aurais jamais imaginé vivre autant de choses. J'ai l'impression qu'il s'est passé bien plus que 3 ans. Et donc, je souhaite à tous ceux qui sont confinés, à tous ceux qui... Et même qu'on soit confiné ou pas, en fait, finalement, mais de chercher à prendre de la hauteur et faire un bilan et de se dire est-ce qu'il y a un vrai alignement entre ce que je fais au quotidien, l'action que je fais et le monde que je veux pour demain. Ça, c'était la vraie question qui m'a vraiment permis de me lancer pleinement et de dire à Decathlon un grand merci, j'ai adoré l'expérience chez vous. Maintenant, je ressens clairement le besoin de chercher cet alignement et de me lancer du coup dans ce projet qui me semble cohérent. Et c'est tout à fait louable d'ailleurs. Decathlon m'a pas du tout claqué la porte au nez en me disant bon bah casse-toi et on reste. Et c'est pour ça que je dis qu'on reste en super terme et ça reste une très belle entreprise sur beaucoup d'aspects.
Bon, au cas où des salariés Decathlon nous écoutent, tout va bien. Ça marche, le lien est toujours là. Et si un jour il y a un super poste qui s'ouvre chez Decathlon, peut-être que tu reconsidères. Hubert, on fait une petite pause là où du coup tu vas nous offrir une bulle d'inspiration à chaque épisode de 2030 Glorieuse. La personne qui est interviewée nous fait un cadeau, celle de nous ouvrir une porte de créativité, d'imagination à travers voilà, un bouquin, un roman, un essai pour nous montrer que dans la littérature il y a déjà tout un tas de ces portes vers 2030 Glorieuse. Qu'est-ce que tu as choisi toi?
Alors, eh bien, j'ai rangé ma chambre pendant ce confinement, j'ai pris le temps de faire ça. J'ai retrouvé un roman que j'ai relu récemment et qui m'a fait beaucoup de bien. Et ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. De Salem, avait dit le vieillard. Mais pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger ? Demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. Il y a plusieurs raisons à cela, mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, c'est quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible, et l'on n'a pas peur de rêver ou de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger, mais il voulait savoir ce qu'étaient ces forces mystérieuses. En fait, ce sont ces forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur Terre. Et même si on a seulement envie de voyager, ou bien d'épouser la fille d'un négociant en tissu par exemple, ou de chercher un trésor, l'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et retiens toujours ça, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Un interprété par l'amateur Hubert Mott.
Non, c'est fou parce que ce bouquin, je l'ai lu, je pense, il y a 20 ans, tu vois. Et il y a des choses qui restent et qui font mouche. Hein. Cette histoire des légendes personnelles, c'est quand même quelque chose d'hyper fort. Hein. Toi, tu y es là en plein dans ta légende personnelle, tu l'honores ?
Je pense à un cheminement de toute une vie. Ce serait facile de dire c'est bon, moi je l'ai trouvé perso, donc j'en suis. Ça rejoint énormément l'alignement que j'expliquais tout à l'heure. En tout cas, je chemine, ouais. Quand on chemine vers sa légende personnelle, je trouve qu'il y a un épanouissement qui naît et donc un rayonnement qui fait qu'on peut on vit des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et plus incroyables les unes que les autres.
Ouais, c'est un peu ce qu'il dit Paolo Coelho dans le bouquin là, hein, du passage que tu nous as lu. C'est un peu comme si tout l'univers conspirait pour faire en sorte que tu arrives à atteindre ce que t'as envie de faire en fait. Toi, tu le vis ça, non ?
Ben, c'est ce que je vis depuis 3 ans. Et c'est quand même génial de se dire, du coup, en fait, si je m'aligne avec moi et avec moi-même et avec cette légende personnelle, on l'appelle comme on veut, en fait, on peut tout faire. Et on peut tout faire sur cette planète, c'est quand même magnifique. Et je souhaite, encore une fois, au plus grand nombre d'être en quête de ça, parce que la vie a bien plus de saveur et bien plus de puissance quand on est dans ce cheminement, parce que le quotidien est vu comme une aventure et pas vu comme uniquement un calendrier où on vient cocher les cases jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Non, y a, on vit vraiment quelque chose J'ai du mal à trouver les bons mots, mais quelque chose de...
D'épanouissant, non ?
De magique, peut-être.
Merci en tout cas, Hubert, pour cette bonne bulle d'inspiration là, que tu viens de nous livrer. On part maintenant en 2030 glorieuse. Hein. C'est un exercice difficile. On est français, nous, en plus. Hein. On a plein de qualités, le français, mais pas celle d'être optimiste, pas celle de vouloir se projeter dans des utopies réalistes. Donc, bon, essayons de dépasser ces limites et d'ouvrir un cap qui n'engage finalement que nous. Je pense que personne dans 10 ans reviendra en nous disant « Mais attends, tu nous avais dit que ça serait comme ça dans l'interview avec Hubert. » Et puis en fait, bon, bah, hein, on trace un cap et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais je pense que c'est important de lever la tête. Donc voilà, on essaie de faire cet exercice. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme dirait l'autre. La première question, là, ça y est, hein, pendant que je te disais ça, tu as senti ton siège bouger, Hubert. Tu sens qu'on est en 2030 glorieuse. Ça y est, on y est. Tu ouvres les yeux. Ma première question, c'est qu'est-ce que tu vois là ?
Je vois de la nature autour, mec. Je vois de la nature. je vois des gens qui discutent ensemble et des arbres autour. Et plus une connexion au vivant qu'il n'y avait pas quand on était en 2020, je pense. Pas assez, en tout cas.
Il y a 10 ans, donc notre ministre de l'économie en 2020, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il appelait de ses voeux un capitalisme plus respectueux des personnes. En 2030 glorieuse, à quoi ça ressemble une économie durable et éthique ?
En 2030 glorieuse, ce qui est cool là, c'est que chaque entreprise qui est créée a pour but premier d'agir pour une société meilleure. Ou en tout cas, pour participer au fait que notre monde tourne rond. Et c'était pas le cas avant. Avant, les premières raisons de pas mal d'entreprises, c'était avant tout l'enrichissement, l'argent. Et du coup, derrière, ça veut dire pas mal d'impasses qui sont faites, enfin, pas mal de choix pas forcément bons pour la société, justement.
Ouais, des raccourcis.
Ouais, exactement. Et ce qui est cool là, c'est mec, toutes les entreprises autour de nous, leur but premier, c'est améliorer la société. Et que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue social, et tous ces objectifs de développement durable qu'on peut voir par exemple auprès de l'ONU et qui sont d'actu.
Donc ce qu'on appelait à l'époque l'économie sociale et solidaire, c'est normalisé.
Ouais, c'est vrai qu'on appelait ça comme ça. Ouais. J'essaie de jouer à fond, tu sais.
et en 10 ans, est-ce que... là, en 2030 glorieuse, la vie est belle, c'est développé. Si oui, comment ? À quoi ça ressemble, 10 ans plus tard, un succès pour la vie est belle ? Et à ton avis, comment ce succès, s'il a eu lieu, il a pu inspirer d'autres entreprises ?
Ce qui est génial, c'est qu'on a permis le développement de plein de petites d'ateliers similaires en Europe et même bientôt dans le monde, j'espère. Et l'idée, c'est pas forcément de faire la pieuvre et d'aller collecter tous les déchets de l'Europe, leur faire traverser les pays pour aller les recycler uniquement dans notre atelier, mais plutôt de dupliquer ce schéma de manière locale. Et c'est ce qu'on a mis en place.
Donc c'est une petite structure à chaque fois, hein. J'ai l'impression que c'est quand même 5, 6, 10, peut-être 20 salariés au maximum, et cette structure elle est duplicable et elle peut être adaptée à la réalité autant au niveau des ressources collectées que des besoins en vêtements, en accessoires, etc.
Ouais, exactement. Et en fait ce qui est chouette en étant connecté de manière locale, c'est qu'on comprend les besoins à la fois quand je pense à la matière qu'il faut revaloriser localement et les besoins de produits finis qu'il y a autour de nous, quoi.
Donc 2030 Glorieux, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être moins cette concentration et ces gigantesques entreprises avec des entrepôts à perte de vue et des employés à la chaîne, mais au contraire, on revient à une échelle un peu plus locale et l'artisanat reprend un peu ces lettres de noblesse.
Bah, c'est clair, parce qu'en 2020, c'était clairement, on passait le cap de l'impossible d'un point de vue de échelle et grandeur. Ça devenait beaucoup trop gros. Même les bateaux, ils pouvaient plus passer entre l'Angleterre et la France parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Enfin, ça devenait complètement n'importe quoi. Et heureusement, on est de plus en plus à s'en être bien rendu compte. Et à quoi bon continuer à faire toujours plus gros et toujours plus avec de moins en moins de matière et de moins en moins d'espace libre, entre guillemets. Donc, ouais, c'est revenu à du local.
Je ne sais pas si tu te rappelles, Hubert, en 2020, on se rendait compte qu'avec la crise, il y a des métiers qui nous semblaient un peu connotés négativement et on se rendait compte qu'en fait, ils étaient au cœur de notre vie du quotidien et que sans eux, sans les personnes qui ramassent les poubelles, les caissiers, les caissières, etc., en fait, on n'arrivait pas à faire tourner un pays. Est-ce que la fierté a changé de camp et est-ce qu'aujourd'hui, être artisan en 2030 glorieuse, c'est au moins aussi valorisé et valorisant que d'être cadre dans une grande entreprise?
On va rester optimiste, mais carrément. Non, ça l'est davantage, et heureusement, ce qui est génial là en 2030, c'est que les gens ont retrouvé le goût de faire et du faire et toute la saveur et l'importance du savoir-faire. Et on s'était rendu compte finalement, à s'entasser dans des tours derrière un ordinateur, que le savoir-faire tombait totalement. Et j'ose espérer que toutes ces crises qui nous sont tombées dessus, comme le coronavirus il y a 10 ans, je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a rappelé aux gens que quand on se retrouvait tout seul et que un peu tout seul dans sa merde entre guillemets, on ne savait plus faire grand chose. Et ça a redonné envie aux gens d'apprendre à faire et à faire soi-même, à coudre, à faire du pain. Pourquoi il n'y avait plus de farine pendant les premières crises? Parce que les gens apprenaient à cuisiner, quoi. Et revenir aux sources et aux basiques qui font du bien, qui permettent à chacun aussi d'être fier du fruit de son travail.
Au début de l'interview, quand tu nous racontais les prémices de La Vie est Belle, tu as beaucoup, beaucoup utilisé le mot créer et aussi le mot créativité. J'ai l'impression que pour toi, en fait, l'activité économique, elle est nourrie par cette créativité. Quelle est la place qu'on lui donne en 2030 glorieuse à la créativité?
Je pense, pour pousser ça, que que l'être humain est de base créatif. Je sais pas si chacun se souvient de ce qu'on faisait quand on était petit, comment on passait le temps, mais c'est incroyable. On avait des idées de dingue et un simple bout de bois pouvait être un bateau pendant 3 heures et on jouait avec. C'était hyper important, c'était génial. Et ça, si c'est pas créatif, je sais pas ce que c'est. C'est génial. Et nos enjeux, c'est de garder cette âme d'enfant dans l'aspect créatif quand on grandit.
Il y a des gens qui ont gardé cette créativité et qui font des ceintures avec des anciens pneus recyclés.
Mais c'est génial, une super idée.
C'est des ouf.
Et en 2030, ce qui est chouette, c'est que j'ose espérer, mais je ne sais pas le vérifier, que cette créativité a redoré son blason et que les gens puissent davantage l'exprimer. En fait, j'ose espérer, là en ce moment, je pense, en 2030, que les gens ont plus de temps pour vivre des projets en dehors de leur boulot.
Ouais.
Et qui dit vivre un projet c'est également vivre une créativité d'une certaine manière.
Il y a une histoire de rythme dans ce que tu dis.
Ouais, de réapprécier le temps. C'est la seule richesse qu'on a et qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est le temps qui passe et rien n'y fait. On a beau aller se faire la chirurgie esthétique, ça ne changera rien. C'est que du faux et du plastique. Non, il n'y a que le temps qui passe et qu'on peut soit laisser filer, soit choisir de vivre pleinement ça. Quoi.
Ouais, il y a les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Toi, il y a 10 ans, tu étais dans une vie d'entrepreneur à 1000 à l'heure, j'imagine. Est-ce que 2030 Glorieuse, tu es toujours comme ça, la tête dans le guidon? À quoi ressemble ta vie en 2030 Glorieuse?
Elle ressemble à une quête de l'équilibre, toujours. Et moi, personnellement, j'ai besoin de vrais temps de repos pour prendre de la hauteur, quoi. Et de vrais temps où je suis à 3000 ailleurs parce que ça me met en énergie et ça me stimule énormément, ça. Si j'ai choisi d'entreprendre il y a plus de 10 ans, c'était justement pour vivre une variété, une multitude d'activités. Vivre à la fois, faire de la communication, être derrière une machine et concevoir des produits pendant une journée ou deux, ou trois ou quatre, répondre à des clients, faire un plateau télé. Et cette diversité me nourrit et me fait du bien. Et en revanche, je dois la connecter à de l'équilibre qui est aussi garder des moments seuls, des moments en silence, des moments dans la nature. Et j'y arrive bien en 2030, c'est cool.
En 2030, Glorieux, c'est la valeur travail a un peu perdu de sa puissance, tu dis. On court un peu moins après nos agendas remplis et notre air débordé, comme si en fait au boulot on était hyper hyper sollicité, comme si c'est... Tu te souviens, en 2020 en fait, on n'arrêtait pas de dire ouais, au boulot en ce moment je suis sous l'eau, comme si c'était quelque chose de bien, quoi.
Ouais, c'est clair. Je pense que... Enfin, je te rejoins totalement. Ce qui est génial, c'est qu'en 2030, la valeur travail a perdu de son importance dans le mauvais sens du terme. Et je pense aussi que la valeur travail a repris du sens. Et du coup, on prend moins ça comme une tare, comme un poids qui nous fatigue. Mais on prend plus ça comme une activité qui nous épanouit et qui nous donne de l'énergie, finalement.
Est-ce que cette énergie, on la retrouve pas aussi dans la différence qu'on trouve au travail? Tu parlais d'un rythme différent. La vie est belle, vous avez assumé dès le début, dès la création, le fait de faire travailler des gens qui soient différents, notamment en allant chercher les plus vulnérables. Comment ces plus vulnérables, ils peuvent être vus comme une richesse? Et est-ce qu'en 2030 Glorieuse, on arriverait à faire en sorte que ces gens-là, ils soient vraiment vus comme une richesse plutôt que de mettre en place des lois pour obliger les entreprises à les embaucher?
Alors, comment changer ça? Je vais revenir au temps et l'instant présent. Quand on passe du temps avec ces gens-là, on se rend compte de leur richesse, on se rend compte de leur talent et de tout ce qu'ils peuvent apporter. Et finalement, on en sort... c'est une relation comme une autre. On est... Au début de la vie belle, quand j'avais commencé dans une cave étudiante à découper des pneus,
ouais.
À commencer à les vendre dans cette colocation étudiante en 2017. Et assez vite, j'étais débordé et j'avais cette envie solidaire de former des personnes, idéalement, qui étaient éloignées de l'emploi ou fragilisées par la vie. Et désormais, ce sont des personnes donc, en situation de handicap dans un atelier partenaire qui les fabrique. Et donc, ça veut dire qu'au début, j'ai passé plus d'un mois à former le premier des salariés qui s'appelle Christophe. À confectionner des ceintures. Ça veut dire tous les jours être avec lui, avec les outils, avec les pneus, lui montrer, lui dire t'en penses quoi, et lui il essaye, et puis il dit moi je ferais peut-être comme ça, et puis au final ça a noué un vrai lien, et je me suis rendu compte de toute la pertinence des solutions qu'il me proposait, concrètes, comment découper le pneu, on pourrait faire dans l'autre sens, on pourrait faire comme ça, et juste en passant du temps, Je pense qu'en 2030, si les gens prennent plus de temps, ce sera plus un sujet d'inégalité et on viendra à quelque chose de plus humain.
J'aimerais te ramener en 2030 Glorieuse 2 minutes, Hubert, si tu veux bien, pour parler de l'aspect plutôt écologique. En 2020, les matières premières fraîches étaient moins chères que les matières premières de produits recyclés, revalorisés. Est-ce que... Ça a changé. Et est-ce qu'en fait, toi, tu rêverais pas qu'aujourd'hui, la seule matière première qui existe, ça soit de piocher dans nos ordures, dans nos océans de plastique, dans tout ce qu'on a déjà produit et qui est là et qui nous tend les bras.
Bah, c'est clair qu'en 2030, on a plus le choix de ça. Et donc, ça nous met d'autres contraintes qui sont autant de pistes pour développer une certaine créativité. Et donc, ça, ouais, c'est clair. En 2030, on est obligé de revaloriser les matières qu'on a extraites parce qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Je suis persuadé aussi qu'en 2030, on apprend à consommer beaucoup moins. Et ça passe encore une fois par le temps et ralentir. Et donc, on a besoin de beaucoup moins de matières finalement.
Ouais, mais en général, on dit oui, vous, les écolos, vous êtes bien sympas, mais avec votre décroissance, ça va faire moins d'emplois. J'ai quand même l'impression qu'un monde où on se contente de revaloriser tous les déchets et cette matière extraordinaire qu'on a face à nous, c'est l'occasion de créer des emplois. Parce que revaloriser, trier, stocker à nouveau, retransformer, ça, c'est des emplois très concrets sur notre territoire.
C'est clair. Et l'entreprise avec laquelle on bosse, qui s'appelle Le Relais, dont je parlais tout à l'heure pour revaloriser le textile, est un superbe exemple. Ils emploient 4000 personnes en France, dont 60% en contrat d'insertion, uniquement pour trier, collecter et trier du textile. Plus de 200 000 tonnes par an en France. Mmh. Et derrière, nous, ça nous permet, on travaille avec une blanchisserie locale pour nettoyer ce textile, qui emploie des personnes en situation de handicap aussi, qui est à Vambrochy. Donc ça remploie de nouvelles personnes. Et derrière, en confection, localement aussi, encore une fois, on emploie des personnes. Donc c'est clair que ça ouvre le champ des possibles. La revalorisation de matière, alors certes, elle va, enfin, changer un modèle, forcément ça va détruire quelque chose d'un côté, mais pour construire autre chose ailleurs. Donc finalement, les emplois, on les retrouvera ailleurs.
Ouais, ça donne envie de laisser libre cours à notre créativité. Et en plus, tu montres bien à travers ton expérience que un souci de réduction de son empreinte est lié dans une boucle vertueuse avec la possibilité de valoriser des savoir-faire, mais aussi des personnes qui sont en général laissées sur le côté de nos économies. Donc ça donne envie. On revient en 2030 glorieuse, là on a déjà échangé depuis plus de 40 minutes. Hubert, ton expérience est passionnante et je suis sûr qu'elle va inspirer pas mal de personnes qui nous écoutent. Et à la fois, on est très vite happé par notre quotidien et les gens qui sont en train de terminer ce podcast avec nous, ils vont ensuite avoir des choses à faire, peut-être même des rendez-vous, soyons fous, et ils vont peut-être un peu nous oublier. Qu'est-ce que tu leur suggérerais comme premier pas à faire pour marcher vers le cap qu'on a ouvert pendant 40 minutes, toi et moi ?
Moi, ce qui m'a clairement aidé, c'est d'écrire, de me faire un petit carnet en perso et au moins une fois par semaine, prendre le temps d'écrire ce que j'ai aimé dans ma semaine, ce qui m'a déplu, là où je me suis retrouvé aligné, épanoui. Et je trouve que écrire aide à réfléchir et aide à, du coup, derrière, à agir. Et c'est clairement l'écriture qui m'a aidé à prendre conscience de ce que je vivais, de cette première expérience professionnelle dans un grand groupe en tant qu'ingénieur, et derrière, à quoi j'aspirais et comment tout ça pouvait prendre forme. Donc, sans changer tout votre mode de vie, rien que prendre, 10 minutes par semaine, c'est quand même pas grand-chose, et ça fait un bien fou, pour ouvrir un carnet et écrire juste pour soi et laisser dérouler un peu tout ce qui vient. Ça fait du bien. Donc, moi, j'ai toujours mon carnet à côté de mon lit et je continue encore cet exercice.
Merci Hubert.
Et ben merci beaucoup.
Et ben voilà, ça y est, cet épisode avec Hubert est terminé. Je ressors avec plein d'énergie de notre échange et j'ai vu beaucoup de similitudes dans le parcours d'Hubert et dans le mien, lui avec son expérience d'entrepreneuriat et d'artisan upcycler, moi dans celui de l'éco-citoyen ambitieux qui raconte son expérience. Je vous dis que j'ai vu des similitudes parce que voilà, ce côté je fonce, je m'écoute et je me fais confiance et je vais au bout de mes envies, de mes intuitions, et finalement je me rends compte que l'univers se met aussi lui en branle, qu'il s'aligne avec cette envie, cette dynamique pour faire en sorte que tout soit facile, même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Ben voilà, j'ai l'impression ce qu'a vécu Hubert ces dernières années et ce que je vis aussi avec au début le lancement du mouvement Ça commence par moi, qui aujourd'hui a plein de ramifications dans ce podcast 2030 glorieuse. Et puis aussi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans la démarche d'Hubert, c'est à quel point il y a une nécessité de recréer un cercle vertueux dans la création de valeur. Hubert, lui, en étant cet artisan upcycler qui est ancré localement, il a un impact dans la créativité, dans la fierté d'un produit qui ne ressemble à aucun autre, mais il a aussi un impact écologique parce qu'il revalorise tout un tas de matières, de matériaux qui auraient dû terminer à la poubelle, mais il a aussi un impact social parce qu'il donne de la place à ceux qui sont les plus vulnérables, et notamment là, dans le cas de La Vie est Belle, des personnes qui sont en situation de handicap. On aurait tendance à penser peut-être que sur le papier, en fait, il a décidé de viser trop d'objectifs en même temps et de se surcharger de conditions, de contraintes. Et finalement, l'expérience d'Hubert nous montre que, au contraire, cette expérience, cette envie de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est une dynamique incroyable qui se lance et qui fait qu'aujourd'hui, La Vie est Belle connaît un très beau succès. Et j'espère que, effectivement, en 2030 glorieuse, on aura plein d'ateliers La Vie est Belle partout en France, partout en Europe. Et pourquoi pas partout dans le monde. Allez, je vous dis à très bientôt, salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!